Je voudrais que tu te rappelles les jours où tu étais sans espoir et perdu dans le péché, et où malgré tout Dieu t'a aimé. Alors que Jésus est mort longtemps avant même que tu ne commettes les péchés, Dieu a imputé ton péché à Jésus. Et que tu dises merci à Jésus parce qu'il te donne une place au milieu de son assemblée. Donne toute la gloire à Dieu. Parce qu'à cause de son amour, il t'a donné, il a offert Jésus comme un sacrifice. Si nos chaînes ont été brisées par le précieux sang de Jésus, c'est uniquement pour que nous soyons des adorateurs. Dis-lui, Seigneur, je ne vis que pour t'adorer. Si je vivais pour autre chose, je serais un voleur. Parce que j'aurais eu subtilisé la vie que tu as rachetée par le précieux sang de ton Fils. Je regrette, Seigneur, les moments où ma vie n'a pas été entièrement tournée vers toi. Mon désir le plus cher, c'est de servir à ce à quoi, ce pourquoi tu m'as racheté, ce pourquoi tu m'as justifié. Proclame l'efficacité du sang de Jésus et déclare qu'à cause du sang de Jésus, tu ne rateras pas ta destinée. Tu peux passer par des difficultés, mais si le Père lui-même a dit « Ose recommencer », c'est qu'il payera la facture du recommencement. Bénis le nom du Seigneur qui, malgré nos erreurs, malgré nos limitations, malgré notre orgueil, malgré nos arrêts dans le désert, et encore les enfants recommencer. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que ton cœur se réjouisse en lui. Que ton cœur exalte son nom. Que ton cœur lui donne la première place. Dis-lui, Seigneur Jésus, tu peux prendre la première place ce soir. Pas seulement pour ce soir, mais même pour les jours à venir. Nous avons parlé avant de Jésus-Christ doit régner. Tu vas faire ce sujet de prière. Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne en ce lieu. Que ton règne vienne sur toute chair. Que ton règne vienne sur tout esprit. Que toutes choses te soient assujetties. Seigneur, je commence par me soumettre à toi. Afin que ta gloire soit révélée pour ma vie. Règne sur ma mentalité. Oh, rejette toute pensée qui peut te priver ce soir d'une visitation divine. Et dis-lui, Seigneur, illumine mon intelligence. Éclaire ma pensée. Seigneur, qu'il n'y ait aucune ombre en moi, aucune trace en moi qui te prive de te révéler à moi. Nous pouvons écouter Dieu parce que Jésus, notre justice, a frayé le chemin. Proclame devant le Seigneur que Jésus est notre justice. C'est par lui que nous sommes justifiés. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cet amour et toute cette considération? Une personne aussi fragile et aussi vaine, jadis pauvre pécheur, ta grâce m'a affranchi et a fait de moi la justice de Dieu et un prédicateur de ta justice. Aussi en ce soir, rassemblés devant ton trône glorieux, Seigneur, nous avons notre fragilité et notre incapacité de faire quoi que ce soit sans toi. Seigneur, si tu dis d'oser recommencer, c'est que tu comptes sur toi et non sur nous. C'est pourquoi ce soir, nous désirons davantage aller en profondeur pour discerner quel est le recommencement que tu voudrais que nous effectuions. Aussi, Père glorieux, s'il te plaît, tu ouvres les oreilles de nos cœurs. Tu nous dis à saisir les profondeurs de ta pensée. Des cieux, Seigneur, tu nous parles. Tu te révèles à nous, tu parles à chacun. Et tu veilles, Seigneur, à ce que personne ne parte d'ici comme il est revenu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour l'exaucement de cette prière. Merci pour l'œuvre que tu commences déjà à accomplir dans la vie des uns et des autres. Seigneur, je te vois ouvrir les oreilles de quelqu'un. Je te vois sortir quelqu'un du puits dans lequel il était tombé. Je vois Seigneur, comment tu ressuscites l'espérance d'une personne. J'écoute tes paroles d'encouragement parties d'en haut et parvenues jusqu'à nous. Seigneur, tu es tellement bon. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Ah, tu es même pressé de t'asseoir. Si tu étais à mesure d'évaluer ce que Dieu est prêt à faire pour toi ce soir, je suis sûr que tu acclamerais un peu plus que ça. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin que tu es au bon endroit et à côté de la bonne personne. Non, j'ai l'impression qu'il ne te croit pas, c'est pour ça qu'il ne te salue pas. Salue-le encore et dis-lui, tu es à côté de la bonne personne. Alléluia, asseyons-nous. Je me réjouis infiniment de la part que nous avons dans ce programme et de la portion qu'il me donne de partager avec vous ce soir. Je donne toute la gloire à Dieu et je dis merci aux bergers de votre communauté qui ont bien voulu m'associer à ce programme dans votre paroisse. Et j'ose croire que toutes les promesses que Dieu nous a faites avant le début de ce programme sont en train de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin que même si ça tarde, attends toujours. Dieu a quelque chose pour toi. Donc, merci à l'équipe pastorale et que la gloire de Dieu davantage continue à rayonner dans votre communauté et à se refléter dans chacune de nos vies. Alléluia. Il m'a été demandé de partager avec vous ce soir concernant l'écoute de Dieu. Écoute Dieu. Et je vais commencer par vous poser une question. Si ma question est bête, donnez-moi juste une réponse sage. N'est-ce pas? Souvent on dit qu'il n'y a pas les questions bêtes, non? Donc même s'il rate quelque chose, je ne vais pas rater la question. C'est ça. Donc j'aimerais demander, quand vous arrivez dans une ville où vous n'êtes jamais allé auparavant et vous voulez connaître l'endroit où vous allez, qu'est-ce que vous faites? Non, 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 soyez disciplinés. Quelqu'un lève le doigt et répond. Oui. On se renseigne. Waouh, n'est-ce pas? D'ailleurs, en Afrique, on dit qu'il n'y a que celui qui n'a pas la bouche qui s'égare, c'est vrai? Donc, quand vous arrivez quelque part, vous ne connaissez pas la route, qu'est-ce qui est le plus logique? C'est de vous rapprocher de quelqu'un qui est de la ville et de vous renseigner, c'est vrai? Mais de l'autre côté, il y a autre chose, c'est que vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui ne connaît pas aussi la ville comme vous. C'est ça, non? Et s'il est un grand sabbat ou comme beaucoup aujourd'hui, il peut essayer de vous indiquer un endroit où il n'est jamais allé, vrai ou faux? Et vous vous retrouvez égaré, n'est-ce pas? Dans les grandes villes, dans d'autres pays où les gens sont plus avisés, souvent il y a les cartes des villes. Et à partir de la carte de la ville, vous pouvez bien vous repérer. Elles sont tellement bien élaborées que vous pouvez vous repérer clairement et savoir que je suis à Bafoussam, à l'immeuble PMUC. Si je veux aller à Palace Garden, voici comment je dois circuler et y arriver. C'est vrai que souvent quand je vois les cartes, je me demande vraiment comment les gens font pour y arriver. Mais bon, un peu d'effort, on y arrive quand même, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a d'autres techniques plus élaborées qu'on a eues, comme le GPS, n'est-ce pas? Peut-être ici chez nous, on n'a pas encore ça, mais les gens enregistrent même ça dans leur voiture. Et souvent, ça les guide. Va dans telle direction, à partir d'ici, dirige-toi comme ceci. Et à partir de ce moment, la personne a moins de possibilités de s'égarer, vrai ou faux? Mais moi, je vais nous dire quelque chose ce soir. Nous sommes sur la terre. La Bible dit que nous sommes comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ça veut dire que vous et moi, nous n'avons pas été sur la terre une fois, une autre fois avant d'être là cette fois-ci, n'est-ce pas? Donc, que nous le voulions ou pas, nous sommes étrangers dans notre propre vie. Et nous sommes sur une terre qui a son lot de difficultés, qui a son lot de pièges, qui a tout ce que nous pouvons connaître comme pollution. Et nous avons besoin d'une direction. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si, en te renseignant à la bouche de quelqu'un, il peut te tromper parce que lui-même, il ne connaît pas son chemin, si en consultant une simple carte, tu peux ne pas comprendre la carte, si en allant sur ton téléphone, la batterie peut être déchargée et le GPS ne t'aide pas, nous avons au ciel une voix autorisée qui connaît la terre et qui est capable de nous guider et de nous diriger. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 au verset 10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus pour une bonne œuvre qu'il a préparée d'avance pour que nous puissions la pratiquer. Ça veut dire que avant ta venue sur la terre, il y avait déjà un programme de bonnes œuvres que Dieu avait établi pour toi. Il y a un agenda divin pour ta vie. Il y a une série de directions divines pour ta vie. Tu n'es pas là au hasard et livré à toi-même, libre de faire tes propres choix, faire ce que tu veux. Non! Tu es sur la terre parce qu'il y a des bonnes œuvres que tu dois accomplir. Et le jour où tu t'es converti, tu es venu à la case de départ où on commence à suivre les bonnes œuvres de Dieu. Et c'est dans ce sens que notre Seigneur se présente comme étant le guide, le berger qui est là pour te conduire au milieu de toutes les séductions qu'on peut avoir sur la terre, au milieu de la duplicité des hommes, au milieu de la méchanceté des uns et des autres, au milieu même de la tromperie inconsciente que dans laquelle certains peuvent vous engager. Il est là pour te dire, ne crains rien, je suis avec toi. Mais le grand problème, c'est que certains n'y croient pas. Pourquoi? Ouvrez un peu vos Bibles dans 1 Corinthiens 12, verset 2. On aura tellement à lire ce soir que je veux que vous le fassiez vite pour qu'on ne soit pas en retard.
1 Corinthiens 12, verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Amen.
Alléluia! L'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens, à des personnes qui se sont converties, des personnes qui depuis un certain temps ont renoncé au péché et sont venues à Jésus. Il a dit, quand vous étiez païens, vous aviez l'habitude de servir des idoles muettes. Il est en train de leur dire, ne confondez pas l'Éternel, le Dieu vivant, aux idoles que vous serviez avant. Parce que vos idoles n'avaient pas de bouche, même si elles avaient une bouche sculptée. Vos idoles ne parlaient pas. Et pendant que j'étais en train de méditer par rapport à la préparation de ce thème, Dieu me transportait un peu dans notre culture africaine. Et il m'expliquait un certain nombre de choses. La première chose que j'ai compris pendant que j'étais en train de méditer, c'est que l'ainsi, parce que les gens disent que non, avant que l'évangile n'arrive, nous on connaissait déjà Dieu. On appelait Dieu chez les Bamiléquins, si c'est ça, non? Mais je vais vous dire, l'ainsi que mes grands-pères adoraient, ce n'est pas l'Éternel des armées. Parce que l'ainsi qu'ils adoraient, c'est un Dieu qui ne leur parlait pas. C'est un Dieu qui n'avait pas de relation avec les hommes. C'est un Dieu qui ne savait pas qu'on parle à un être humain, qui préférait prendre le raccourci au travers des araignées et des morts pour parler aux vivants. Voilà le si que nos ancêtres adoraient. Quand ils voulaient écouter Dieu, ils allaient chez quelqu'un qui est spécialiste dans l'araignée ou le scorpion. C'est ça qu'on appelle un gomme, non? Et ils disaient que, dis-moi l'avenir, parce qu'ils ne connaissaient pas qu'un si parle. L'un si ne parlait pas. Dont l'araignée devait les renseigner sur la volonté de si. C'est une idole muette. Régulièrement, lundi pour leur parler, il fallait qu'ils partent convoquer l'esprit d'un mort. Un de leurs grands-pères vient leur parler dans le rêve. Ou bien un spécialiste invocateur leur dit qu'il faut faire les sacrifices sur tel crâne. C'est là maintenant qu'un si va débloquer. Parce qu'un si n'était pas le si des vivants. Il était le si des morts. Et beaucoup parmi nous sont venus à l'église, mais ils voient toujours Dieu comme si. C'est pour ça qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent parler, Dieu leur répond. Ils ne savent pas que Dieu parle. C'est pourquoi quand vous leur dites, Dieu m'a dit, comment il est, l'affaire c'est encore sérieux. Dieu t'a dit, tu étais où avec Dieu? Est-ce que vous voyez un peu? Mais soyons un peu sérieux. Si moi je crois que le pasteur Raymond, si je peux causer avec lui normalement et nous rions, pourquoi je ne peux pas croire que Dieu qui est plus grand que lui peut me parler de manière plus claire? Dieu parle. Dis à ton voisin que Dieu parle. Regardez, c'est cette compréhension des idoles muettes qui a même donné le nom de la prière en Bamiléké. En Bamiléké, on dit prier comment? Hein? Ne tasse non. Donc seulement saluer. Et comme Dieu est même impoli chez eux, on salue, on n'attend même pas qu'ils répondent. N'est-ce pas? Le tasse seulement. Et on passe. C'est ça, non? n'attends même pas la réponse de Dieu. Quand moi je sais que je suis face à quelqu'un de vivant, que non, le pasteur Raymond est là, je ne peux pas dire que bonjour pasteur Raymond et je pars. C'est ça, non? Si je m'attends à une réponse, je vais le regarder quand même dans les yeux. Mon pasteur, ça va papa? Voilà. Il parle. Mais non, si quand nous venons à l'église, nous savons que s'il ne parle pas, c'est pourquoi nos prières sont une série de requêtes que nous on vient en bombarde comme une lettre qu'on jette à la poste et chacun sauve qui peut y rentrer chez lui. Mais ce n'est pas ainsi qu'on nous a appris l'Éternel, que le Saint-Esprit nous enseigne Dieu. Dieu parle. Souvent, dans mon expression, il y a une, dans ma langue, il y a une expression qui pour moi parle mieux de la prière que Tchatsisi. C'est une Tchotcham. Quand vous dites que vous êtes en train de tchoir le tchamaïe quelqu'un, c'est que vous êtes dans une causerie, dans l'intimité, non? Oui, là ça dure même, non? Souvent les tchams peuvent faire 3 heures, c'est ça, non? Non, normalement on devait dire qu'on fait le tcham avec Dieu. Pas tcham comme tcham ou quoi. On devait dire qu'on cause. On est dans l'intimité. La prière chrétienne ne se définit pas comme un moment où on vient seulement, on bombarde le trône de Dieu avec les requêtes. La prière chrétienne, c'est un échange qui se passe entre Dieu et moi. Et le Seigneur dit qu'il a permis qu'il y ait cet échange. Pourquoi? Pour mon bonheur. Ouvrez un peu vos Bibles à Ésaïe 48. Vous y êtes? Ouvrez le verset 18. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Pourquoi est-ce que Dieu parle? Je vous assure, on va voir les références où Dieu demande de l'écouter. Mais vous n'allez voir aucune référence dans la Bible où Dieu appelle les chats et les animaux à l'écouter. Est-ce que vous suivez un peu? À la fin des temps, Dieu ne va pas blâmer les animaux. Hein? Il n'a pas un problème avec eux. C'est les hommes. Vous avez vu? Quand Dieu est arrivé au jardin et que Ève avait péché, il a appelé qui d'abord? Adam. Il a appelé Adam, non? Adam a répondu qu'il est nu et il a fui se cacher et tout. Donc Dieu lui a parlé, vrai ou faux? Quand Adam a trouvé le moyen d'accuser sa belle femme qu'il avait pourtant aimée dès le commencement, avait fait les poèmes le jour du mariage à l'église devant Dieu, quand il a fini de l'accuser, Dieu s'est adressé à qui? Elle a répondu que qui l'a séduite. Bon, maintenant, Dieu a encore demandé quelque chose au serpent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une question de discussion entre Dieu et le serpent. Dieu ne cherche pas une relation avec les animaux, mais avec les hommes. La Bible dit que Dieu a fait à l'homme une aide sans blâme. Qui était qui? Non. Maintenant, il est de sang. Maintenant qu'il a créé l'homme, il a dit qu'il fait l'homme à son image et à sa. Donc un homme, un être qui est semblable à lui aussi. Donc la communion que Dieu veut qu'un homme ait avec sa femme, il s'attend à ce que son image et sa ressemblance aient ça avec lui. C'est pourquoi quand il y a problème, il ne pose pas les questions aux serpents, mais il pose aux hommes. Lisez Ésaïe 48, 18.
Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen.
Ha! Si tu étais attentif à mon commandement, qu'est-ce qui se passerait? Ton bien-être. Et ensuite quoi? Ton bonheur serait comme un fleuve. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui est malheureux parce qu'il n'est pas attentif aux commandements. Ses oreilles ne sont pas tendues pour écouter. Dieu dit que ses commandements ont pour but de te donner le bien-être et le bonheur. Le bonheur, c'est la satisfaction générale que tu peux avoir dans la vie. Le bien-être, c'est la joie intérieure et extérieure que tu dégages en toi. Et Dieu dit que si tu étais attentif à ses commandements, il devait même payer ta facture à la sonnelle. C'est le bien-être, non? Il devait s'occuper de ta voiture. C'est toujours le bien-être, non? Il devait s'occuper de tes affaires. C'est encore le bien-être, non? Et par-dessus tout, il mettrait le bonheur dans ton cœur. Ça veut dire que si tu es malheureux, c'est que tu n'es pas attentif au commandement de Dieu. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es attentif? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 10, versets 2 à 5. Si Dieu parle, c'est parce qu'il veut te rendre heureux. Si Dieu parle, c'est parce qu'il veut que tu partages la joie qui est dans le ciel. Si Dieu parle, c'est parce qu'il veut que ta vie soit un succès. Il dit, je connais les projets que j'ai fondés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais maintenant, si tu es attentif, ton bonheur sera comme un fleuve. Je ne veux pas dire que tous ceux qui souffrent, c'est parce qu'ils ont créé les problèmes. Mais je suis en train de faire comprendre que si tu écoutais Dieu, ta vie serait différente. Amen. Lisons Jean 10. Parce que quelqu'un est certainement en train de se dire, mais pasteur, d'accord, je veux bien que mon bonheur soit comme un fleuve. Ça, je veux bien être heureux. Je veux expérimenter le bien-être. Mais on fait alors comment? Comment être attentif au commandement de Dieu? C'est ça. Maintenant, lisez.
En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen.
Alléluia. Dans l'église, les gens connaissent tellement la voix des étrangers qu'on se demande s'ils sont les brebis du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur dit ici. Il dit que ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Régulièrement dans l'église, les gens ont posé la question, pasteur, comment on écoute Dieu? Moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais je sais que si vous êtes une brebis du Seigneur, vous allez entendre sa voix. Et si vous n'avez jamais entendu la voix du berger, demandez-vous si vous êtes dans le bon pâturage. Ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Ça veut dire que la première étape pour pouvoir entendre de Dieu, pour pouvoir écouter Dieu, c'est de devenir quoi? C'est de devenir sa brebis. Si vous n'êtes pas la brebis du Seigneur, ne vous entendez pas à écouter sa voix. Vous ne pouvez pas vous n'avez pas un abonnement MTN et vous attendez qu'MTN va vous envoyer ses messages de promo. C'est ça, non? Vous n'allez jamais les recevoir. Il faut bien que vous soyez un abonné de la maison. Et c'est par là que tout commence. Est-ce que vous êtes une brebis du pâturage de Dieu? Et si vous me dites, oui, pasteur, je suis une brebis, je vais demander pourquoi est-ce que tu entends encore la voix des étrangers? C'est la voix des étrangers qui vous a conduit dans beaucoup de catastrophes dans lesquelles vous êtes. Et si vous voulez recommencer aujourd'hui, vous devez baisser la fréquence des étrangers dans votre vie et augmenter la fréquence de Dieu en vous. Vous devez faire taire les voix étranges qui vous entraînaient en dehors de la volonté de Dieu. La voix de votre chair. La voix des amis bizarres. La voix des choses du monde. Même du diable. Vous savez, quand j'ai particulièrement demandé à Dieu, Seigneur, je ne peux pas enseigner sur l'écoute sans t'écouter. Je voudrais moi-même t'écouter. Pour eux à Tamjala, qu'est-ce que je dois même pouvoir leur dire? Et Dieu a attiré mon attention sur ceux qui vivent dans le péché et qui citent les autres comme les responsables de leur faute. Est-ce que vous suivez un peu? Quand bien même ce serait le pasteur qui serait un contre-exemple, ça ne vous autorise pas de suivre la voie d'un étranger. Laissez-le suivre son étranger. Restez derrière le bon berger. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Et le Seigneur m'a donné l'exemple de Balaam. Vous avez entendu parler de Balaam? Nombre du chapitre 23 au chapitre 25 nous parle d'un prophète qui s'appelait Balaam. C'était le genre de serviteur de Dieu qui est vrai pasteur, vrai sorcier. Il avait reçu plein de dons de Dieu, mais l'amour de l'argent l'avait fait s'initier à la sorcellerie. Ce qui fait que régulièrement, il écoutait Dieu et après, il partait vers les enchantements. C'était un pasteur sorcier. Et le pasteur sorcier, se rendant compte qu'il ne pouvait pas faire tomber le peuple d'Israël, a donné un conseil aux populations qui étaient à côté. Il a dit à tous les voisins d'Israël, tant que Israël vit dans la sainteté, vous ne pouvez rien leur faire. Envoyez vos femmes, vous avez les belles femmes ici. Envoyez vos femmes coucher avec eux et vous allez voir ce qui va se passer. Et sur le conseil de Balaam, on dit que les filles Moabites et Madianites sont allées coucher avec les enfants d'Israël. Et qu'à cause de ça, ils ont été exposés à la colère de Dieu. Non pas tous, une partie du peuple. 23 000 personnes ont péri en un seul jour d'une épidémie. Mais il y a quand même eu des survivants. Ça veut dire que le peuple était divisé en deux catégories. Il y avait les brebis de Dieu parmi eux. Il y avait qui n'étaient pas les brebis de Dieu. Et Dieu m'a dit, s'ils étaient mes brebis, ils n'auraient pas été séduits par ces femmes. Et moi, je veux aussi dire à quelqu'un ici, si l'Éternel était ton berger, tu n'aurais pas suivi cet étranger. Si l'Éternel était ton berger, tu n'aurais pas suivi cet étranger dans les cases des devins et des marabouts. Ce serait quand même bizarre d'en parler ici ce soir, mais parmi vous, il y en a qui sont encore dans ces choses. Si l'Éternel était ton berger, tu n'aurais pas cru au diagnostic qui t'impose de faire un funérail dans quelques jours. Si l'Éternel était ton berger, tu n'aurais pas suivi ce garçon. Si l'Éternel était ton berger, tu n'aurais pas suivi cette femme. Si l'Éternel était ton berger, tu ne te serais pas engagé dans toutes ces dettes. Toutes ces choses, ce sont les étrangers. Et si vous les suivez, c'est que vous n'êtes pas dans le pâturage. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas une présence religieuse dans son église. Il veut une relation. C'est dans la relation qu'on parle avec quelqu'un. Que j'entretiens avec toi influence la nature de nos causeries. Le père ne dit pas à son enfant ce qu'il dit à sa femme, vrai ou faux. Oui, maintenant Dieu veut avoir une relation particulière avec toi, de berger à brebis. Quand on dit que quelqu'un est la brebis de Dieu, c'est qu'elle est une situation de dépendance absolue. Beaucoup parmi nous sont restés les brebis de Dieu jusqu'à ce qu'ils aient un peu d'argent. Dès que l'argent, un peu, on ne tient pas beaucoup. Par exemple, on croit même que c'est la qualité que l'autre a même voulu brûler dans la maison. Un peu. Petit argent comme ça là, même pas la moitié d'une liasse. Directement, ils ont cessé d'être des brebis. Ils sont devenus les boucs ou les ânes. Et on a découvert qu'ils étaient leur vrai maître. Des jeunes filles sont restées les brebis de Dieu jusqu'à ce qu'un homme leur demande la main. Des jeunes hommes sont restés les brebis de Dieu jusqu'à ce qu'on leur donne un emploi. Demande à ton voisin, est-ce que tu es encore dans le pâturage? Mes bien-aimés, ne restez pas au loin en vivant dans vos péchés et en vous attendant que Dieu va vous parler. Tant que vous vivez dans l'iniquité, tant que vous suivez un autre maître, ne vous dérangez pas. Le bonheur qui est comme un fleuve restera un mirage pour vous. Vous ne serez jamais heureux. Ne vous dérangez pas. Quand vous donne tout l'argent de la terre, toutes les femmes de la terre, tous les biens de la terre, tous les terrains du monde, vous ne serez pas heureux. Sortez de vos faux pâturages et revenez dans la maison du Seigneur. Et revenez vers moi et vous m'écouterez. Revenez vers moi et vous entendrez ma voix. Être à l'église ne suffit pas pour Dieu. Ça ne suffit pas. Dieu veut une relation avec toi. Vous savez, quand dans ton téléphone, quelqu'un t'appelle régulièrement, non? Quand tu fouilles dans la liste d'appels, tu vois toujours son numéro, non? C'est ça. Souvent, son numéro s'affiche même parmi tes favoris, c'est ça. Mais quand il fait une semaine, deux semaines, quand tu veux chercher, tu descends jusqu'en bas, c'est ça, non? Après, ça disparaît même, vrai ou faux. Il y a les gens qui sont dans cette situation avec Dieu. Pour voir le numéro de Dieu dans leur vie, il faut descendre jusqu'en bas. Les appels les plus récents, c'est les appels des étrangers. Et depuis même, on a le nom de Dieu dans leurs appels. Ils suivent leur propre voie, ils accomplissent leur propre projet. Mais je peux vous garantir d'une chose. Vous évaluera pas sur la base des appréciations des hommes. Il ne vous évaluera pas sur la base de votre propre conscience. Il vous évaluera sur la base de ce qu'il vous a demandé de faire. Si vous ne l'avez pas fait, le jour des résultats. Alléluia. C'est pourquoi la première chose que je peux vous dire ce soir, mes bien-aimés, c'est de vous tourner véritablement, de sortir de toutes les fausses berges que vous êtes. Je ne sais pas de quoi est-ce que Dieu est en train de parler concernant ta vie. Ça peut être les femmes pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, c'est seulement la bouteille de bière. Moi, je ne sais pas ce dont Dieu parle dans ta vie, mais j'ai l'impression que tout ce qui a pris la place de Dieu au volant de ta vie doit être détrôné si tu veux que Dieu te parle. Et si Dieu ne te parle pas, tu seras comme un homme qui est venu à Bafoussam, il ne connaît pas la route, il est là, il conduit, il gaspille le carburant, il ne sait pas où il part. Dans sa tête, il sait qu'il part à Kamko, mais il est vers Saint-Thomas là-bas en train de chercher la route, n'est-ce pas? S'il prie beaucoup, il va arriver un jour, n'est-ce pas? Hein? Donc il est en train d'aller à Kamko, vous connaissez un peu la ville, non? Et il est sur la route de Saint-Thomas, en train de descendre, il roule. Hein? Et pendant qu'il roule, son pasteur prie pour lui, il est dans le programme de jeûne. Au nom de Jésus, il va arriver un jour à Kankop. Le plus simple, arrête-toi et renseigne-toi. Et ne te renseigne pas à un amateur comme toi. Renseigne-toi à celui qui connaît tout. Remonte jusqu'à celui qui a l'information. Tourne-toi vers lui, il va te repositionner. Tu vas continuer ton chemin. Et le grand problème, quand les gens sont même égarés, ils se contentent. Donc ils sont en route. Ceux qui sont au bord de la route les distraient. Est-ce que vous voyez? Ils ne voient pas que le temps passe. Ouvrons nos Bibles dans Exode 33. Exode 33, versets 7 à 11. Vous y êtes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entendre la voix de Dieu ce soir? Quels sont ceux qui voudraient entendre la voix de Dieu ce soir? Moi, je sais qu'il va vous parler ce soir. Je suis sûr de moi parce qu'il ne ment pas. Levez la main, ceux qui veulent entendre la voix de Dieu ce soir. Vous êtes prêts à suivre les dispositions de Dieu? Vraiment? La première que j'ai donnée, c'était quoi? De revenir dans le pâturage, de devenir la brebis du Seigneur, non? Vous devez vous repentir de manière sincère. Est-ce que vous avez suivi? La première chose, c'est d'appartenir à Jésus. C'est de dépendre de Dieu de manière exclusive. Si tu dépends d'autre chose, si tu dépends de ton argent, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Si tu dépends de tes maisons que tu as mises en location, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Si tu dépends de tes enfants qui sont en... tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Si tu dépends de ta femme, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Si tu dépends de l'esprit de tes grands-pères qui sont morts, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Si tu dépends du marabout qui te scarifie tout le temps, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Si tu dépends de la bouteille de bière, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Si tu dépends de tes plus petits membres, la langue et un autre membre que je ne veux pas citer, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Tu dois t'affranchir et revenir au Seigneur. Maintenant, lisons pour voir la suite.
Exode 33, verset 7 à 11. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen.
Oh Jésus, pour moi c'est l'un des textes les plus beaux de la Bible. Parce que ça révèle c'est de Dieu pour chacun de nous. On dit que Moïse, l'homme de Dieu, qui pouvait parler, la mer se fend en deux. Il faisait tous les miracles là, n'est-ce pas? Mais ça n'empêchait pas Moïse. Avant d'aller diriger le peuple, il allait d'abord vers la tente d'assignation. Est-ce qu'on a bien suivi? La tente d'assignation était où? La tente d'assignation, c'était comme un petit... Vous êtes là, votre temple ici est beau, hein? Waouh! Ça, c'est mignon! La tente là, c'était une série de tissus. Est-ce que vous suivez bien? C'était une série de tissus qu'on devait transporter. Ça n'avait rien d'une bâtisse belle comme celle-ci. Est-ce qu'on suit un peu? Mais je vais vous assurer d'une chose. Si on met un beau bâtiment et une simple tente, si Dieu est présent dans la tente est le palais et le bâtiment est un taudis. Est-ce que vous suivez? Donc si vous vivez dans vos grands palaces, avec tout le luxe du monde, et que vous n'avez pas la présence de Dieu, vous êtes misérable. Mais si vous n'avez qu'une simple tente, comme la tente d'assignation, que le vent peut porter à tout moment, doit attacher avec des cordages, tellement c'est fragile, mais que Dieu est présent. C'est le palais de gloire, là où vous pouvez rencontrer le Seigneur. Alléluia! Et pour aller à la tente d'assignation, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Moïse avait mis ça hors du temps, hors du peuple. Vous croyez qu'il était fou? Pourquoi il n'était pas venu mettre au milieu des gens pour dire que bon, il faut qu'on mette là où tout le monde va partir? On dit qu'il allait mettre ça hors du peuple. Pourquoi? Parce qu'au milieu du peuple, les gens ne devaient pas être focalisés sur Dieu. Les gens devaient être distraits. Et pour consulter l'Éternel, il fallait sortir des distractions. Il y avait un chemin qu'il fallait faire. C'était un chemin pendant lequel tu te dépouillais de la vie mondaine. Tu te dépouillais de tes attaches, de tes affaires. Pour aller à la tente, il fallait laisser tes bœufs. Alléluia. Il y a des gens qui, ça fait au moins 15 ans, ils n'ont pas pris de retraite. Tellement ils aiment l'argent. Quand tu les attends, ils passent, je vais faire comment? Mais il fallait se détacher de ses biens pour écouter Dieu. En chemin, tu avais le temps pour que l'Esprit de l'Éternel juge ta conscience, que tu t'éprouves avant d'arriver à la tente. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit que quand tu veux parler avec Dieu, va dans un lieu secret. Retire-toi dans le secret et parle avec lui. Si vous voulez que Dieu vous parle, vous devez vous mettre dans les conditions pour que Dieu vous parle. Quand j'ai commencé cette nuit à demander à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter. La première chose que Dieu m'a dit, c'est que tu veux m'écouter, mais tu as déjà ce que tu veux me dire par rapport à Tamja. Si tu veux m'écouter, mets d'abord ça de côté. Dépouille-toi de ce que tu as comme idée. Et maintenant, je vais te parler. Est-ce que vous suivez un peu? Attends, est-ce qu'on se comprend bien? Beaucoup de fois, nous n'entendons pas la voix de Dieu parce qu'en nous mettant à genoux, on a déjà nos idées. Ah non, moi, je vais prier pour que Dieu fasse que les bandits ne viennent pas chez moi. Qui ne te dit pas que Dieu veut qu'ils viennent et qu'ils voient la puissance de Dieu en venant chez toi? Hein? Moïse se détachait. Et quand il arrivait à la tente d'assignation, il y a quelque chose de bizarre dans le texte. On dit que le peuple voulait écouter, Dieu venait à la tente d'assignation. Vous voyez, ils arrivaient à la tente, ils s'arrêtaient. Vous savez pourquoi ils s'arrêtaient? Ils avaient peur de Dieu. Et ils s'arrêtaient, ils disaient que, gars, Moïse, c'est toi et ton Dieu, là, s'il te plaît, gars, viens entrer. Bah, tu consultes Dieu pour nous. Et l'église est faite de beaucoup de gens comme ça. Ils ont leur Moïse. Les personnes qui ont quelques dons spirituels. Dès qu'on sait que tu as le don de prophétie, tout le monde devient esclave de ta compagnie. Frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Tu n'as rien reçu? Non, vraiment, pardon, porte mon sujet. Porte mon sujet. Parce que dès qu'il va commencer à prier, après, il va venir te dire que Dieu m'a dit de t'éthique. C'est ça, non? Les gens sont là, voilà les paresseux. Ils sont à l'entrée de la tente. Ils s'arrêtent et ils laissent. Moïse doit venir écouter Dieu. Moi, je vais vous dire, si vous attendez que moi j'écoute Dieu pour vous, attendez. Moi-même, j'ai aussi les choses que je vais l'écouter sur ça, mes amis. Et je ne suis pas sûr que mes problèmes vont passer après les vôtres. Et quand il va sortir, si Dieu m'a parlé de moi, de pour vous, si je veux maintenant vous mentir, il va dire, qu'est-ce que tu sais que Dieu m'a dit que... Et après, tu vas dire que vraiment, c'est le Seigneur qui avait dit que je dois épouser tel. Il t'avait dit ça. Pourquoi c'est à l'autre qu'il a dit ça? Ils arrivaient à l'entrée de la tente, personne n'entrait. Ils attendaient que Moïse, le prieur professionnel. Je vais vous supplier dans l'église. Si vous avez l'impression que les gens vous prennent comme leur décharge de sujet de prière, dites-leur que vous n'êtes pas Isaacab. Dites-leur d'aller prier pour eux-mêmes et d'écouter Dieu pour leur tête. Dieu veut une relation avec eux. Il ne veut pas d'intermédiaire. Moi, il y a de cela un an, Dieu m'a interdit de donner mes sujets de prière à certaines personnes. Donc moi, rarement, je demande aux gens que prie. Quand je demande à quelqu'un de prier pour moi, je sais que j'ai une alliance avec lui. Parce que dire à quelqu'un qu'il prie pour toi, c'est faire de lui ton associé. Que tu le veuilles ou pas, ça veut dire que vous partagez les fardeaux. Et donc ça veut dire que si Dieu voulait même t'écouter, comme il n'exauce pas les pécheurs, à cause de lui, il risque de ne pas t'exaucer. Dis à ton voisin que ne demande plus à tout le monde de prier pour toi. Dis-lui que va à la tente d'assignation. Maintenant, quand il arrive à la tente d'assignation, quand Moïse entre, on dit que Dieu parlait avec lui face à face, comme on parle avec un ami. C'était tellement glorieux. Et quand il causait, il dit, oh mon Dieu, hier, Dathan et Abiram ont fait telle chose. Je fais comment? Dieu dit, sois patient. Je vais prendre le dessus, mon fils. Oh Père, mes voisins m'ont encore calomnié. Partout, tout le monde raconte ceci à mon sujet. Je réagis comment? Il dit, mon fils, ne frappe pas l'insensé selon sa folie. Et Dieu lui dit, écoute, occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. Et régulièrement, il parlait avec Dieu, comme on parle avec un ami. Y a-t-il des gens ici qui veulent être les amis de Dieu? Je suis sûr que Dieu veut être votre ami. Regardez ce qui se passait. On dit que quand les gens arrivaient à la tente d'assignation, ils restaient dehors. Mais quand Moïse arrivait et qu'il entrait, à la même minute, la nuée ou la colonne de feu descendait. Vous avez vu ça? La colonne de feu descendait. Et moi, quand j'ai lu ça une fois, je dis que waouh! Ça veut dire que Dieu lui-même était pressé de rencontrer Moïse. Est-ce que vous suivez? Tu as peur de te mettre à genoux. Tu te dis que Dieu ne parle pas, mais je t'assure, Dieu a envie de te parler. Dès que Moïse entrait, Dieu descendait. C'est-à-dire que Dieu lui-même attendait. Il y avait les jours où Dieu dit que, mais pourquoi Moïse a duré au camp comme ça? Oui, pourquoi il est en train de... Il perd trop le temps dans les jugements. Je veux causer avec lui. Vous avez déjà eu l'empressement à vouloir causer avec quelqu'un que vous aimez? Quand quelqu'un que vous chérissez doit venir chez vous et que vous avez certains sujets à partager avec lui, s'il devait venir à 17h, vous avez déjà préparé la place pour l'accueillir, c'est ça? Et que maintenant à 18h, il n'est pas encore là, la sueur commence un peu à couler sur vous, non? Et vous prenez le téléphone et vous dites, ouais, gars, tu es à quel niveau? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, même Dieu était comme ça là. Quand Moïse traînait au camp, Dieu n'était pas content. C'est pour ça que dès que Moïse entrait, Dieu descendait. Et je suis en train de dire à quelqu'un que dès que ce soir, tu vas résoudre de chercher Dieu. Et dans la chambre des noces, comme c'est le frère Emma qui aime souvent appeler le lieu de rencontre, la chambre des noces. Dès que tu vas entrer dans la chambre des noces, Dieu va descendre. Tu vas répondre que Seigneur, je vais prendre 3 jours pour toi. Dès le premier jour, Dieu va te parler. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu veut communier avec toi. Mais il faut que tu sortes du camp. Sors du camp, mon ami. Il y a le camp des novelas. C'est ça, n'est-ce pas? Le camp de la voisine du quartier. Le camp des amis du bar. On n'a pas les chrétiens qui ont même les amis du bar. Il est là, il n'a même pas encore lu tout un évangile. Mais il est assis au bar. Il discute quoi? Je donne gloire à Dieu parce que vous avez raté le match du Cameroun. J'étais moi-même étonné, je ne savais même pas que le match passait. Écoutez, les Moukandjo et les autres ne peuvent pas changer votre vie. Ils peuvent vous faire rire un instant. Le seul qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Donc, t'allais regarder les gens dont le spectacle est sans objet dans ta vie. Retire-toi, tu regardes Dieu. Est-ce que c'est compris? Depuis les années que tu pars chez ta voisine, le seul bénéfice que tu as eu là-bas, c'est les meurtres. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que tu pars là-bas faire, c'est la calomnie. Et la Bible, et un penseur a dit que quand vous faites le commérage, vous tuez 3 personnes. Vous tuez la personne que vous calomniez parce que vous détruisez son image. Vous tuez la personne que vous, avec qui vous parlez parce que vous faites de lui un complice de votre méchanceté. Et vous tuez votre propre âme parce que vous vous coupez de Dieu. Regarde ton voisin, s'il est un assassin, regarde-le. Demande-lui que tu as tué combien de personnes ici dehors, demande-lui. Hello. Et il y a une différence entre ceux qui écoutent Dieu et ceux qui n'écoutent pas. Quand Moïse sortait de la tente d'assignation, il y avait une différence entre lui et le peuple. Les autres étaient restés spectateurs. Je vais vous donner quelques différences. Moïse écoutait Dieu, eux ils écoutaient Moïse. Quand vous êtes quelqu'un qui écoute Dieu, vous devenez une référence. Les gens commencent à vous chercher. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu brille dans votre vie. Mais maintenant, comme eux ils écoutaient seulement Moïse, ça fait que quand il avait les problèmes, Moïse s'attachait à Dieu et eux ils quittaient Dieu. Quand Moïse a écouté Dieu, Dieu lui a dit va et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Il est arrivé, Pharaon l'a regardé, que là, moi, un ancien condamné à mort. C'est même pas pitié que je te laisse, monsieur Moïse. Tu parles fort ici? Tu parles fort ici? Mais la Bible dit que Moïse était plus conscient du Dieu invisible que du Pharaon visible. Parce qu'il entend Dieu. Et il n'a pas paniqué. Quand vous écoutez la voix de Dieu, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui entendent la voix de Dieu sont inébranlables. Peu importe les difficultés, ils ne reculent pas devant Pharaon. Ils frappent Pharaon jusqu'à ce que Pharaon tombe. Quand Moïse revenait de la signation, le peuple le calomniait, ça ne lui faisait rien. Je suis en train de dire à quelqu'un qui veut fuir l'œuvre de Dieu parce qu'on a parlé de son nom, que laisse tomber. Moïse a vu plus que ça. C'est peut-être depuis que tu n'écoutes plus Dieu que tu as ce problème. Le peuple le critiquait, ça ne le décourageait pas. Le peuple l'injuriait, ça ne le décourageait pas. Le peuple l'avait rejeté, ça n'a pas découragé. Pharaon l'a résisté, ça n'a pas découragé. Inoxydable. Et Moïse a frappé, 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 jusqu'à ce que finalement, Pharaon a eu la foi en Moïse. Et il s'est soumis à Moïse. Le peuple a eu la foi en Moïse. Il s'est soumis à Moïse. Et je vais dire à quelqu'un, ceux qui écoutent seulement les prophéties des pasteurs ne sont pas forts dans leur foi parce qu'ils dépendent de la prophétie de l'homme de Dieu. C'est pourquoi quand les vrais problèmes viennent, ils ne disent plus à Dieu que « Seigneur, c'est ce que tu m'avais dit. Que Seigneur, n'est-ce pas c'est le pasteur que tu avais mis à côté de moi? C'est lui qui m'avait dit. Mais Seigneur, n'est-ce pas c'est le frère tel? Tu m'avais dit d'aller voir le frère tel, non ?» Quand bien même je rends don de prophétie, je ne prends pas la place de Dieu dans votre vie. Vous devez chercher Dieu. Sortez du milieu du peuple. Commencez par devenir la brebis de Dieu. Sinon, tous vos sacrifices sont sans objet. Devenez la brebis de Dieu par une conversion authentique. Deuxièmement, sortez du peuple. Détachez-vous. Écoutez Dieu coûte cher. Ça coûte le temps. Ça coûte la patience. Et vous devez payer ce prix-là. Mais, bien sûr, l'information est le secret de la domination dans ce siècle. Et quand vous avez passé une minute avec Dieu, vous pouvez avoir l'information pour gouverner la terre même pendant 40 ans. Moïse a écouté Dieu sur la montagne. Il a donné les 10 commandements qui ont fait plus de 4000 ans jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est qu'en écoutant le Dieu, l'esprit du Dieu éternel, qu'on reçoit des choses éternelles. Commencez à écouter Dieu. Aimez la présence de Dieu. Au lieu quand vous vous levez le matin, dès que vous avez un rêve, ne venez pas déranger le pasteur Edouard, le pasteur Raymond, le pasteur Mathieu. Profitez de ça, vous vous mettez à genoux, vous parlez à Dieu. Il y a des gens qui sont devenus les spécialistes des rêves. Moi je vais vous dire, Dieu ne parle pas les rêves, mais il veut te parler face à face comme avec un ami. Est-ce que c'est compris? Non, tes rêves là peuvent te tromper. Tu peux m'avoir, tu peux avoir faim et la nuit tu rêves que tu as mangé le poulet. Oui, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Rien du tout. C'est pourquoi si tu veux connaître la volonté de Dieu, laisse les rêves. Une fois, je vous ai dit ici que je suis passé par une saison de ma vie où j'avais trop les problèmes. Tous les jours, quand je me couchais, j'attendais que la nuit, je vais avoir un rêve qui m'a parlé de mon problème. Et un jour, Dieu m'a dit que mon fils, avant d'avoir le rêve, il a réussi même à dormir. N'est-ce pas? Vous rêvez, c'est bien, mais écoutez, c'est mieux. Prenez du temps, vous laissez Dieu parler à votre cœur. Sortez les fardeaux que vous avez mis dans votre cœur. Mettez l'amour de l'argent dehors. Mettez les doutes dehors. Mettez la peur dehors. Mettez les personnes à qui vous n'avez pas pardonné dehors. Pour que votre cœur soit libre. Et maintenant Dieu va vous parler. Dieu veut parler à ton cœur. Il y a d'autres voix qui vont te permettre d'être sûr que ce que tu as reçu pendant ton moment de prière c'est vrai. Il y a la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui est contraire à ce qui est écrit. Elle dit, non vraiment, pasteur, Dieu m'avait menti que c'est mon mari. Et vous vivez en concubinage, c'est ton mari quoi? Ton concubin, Dieu n'a pas ça dans sa parole. Tu dis quoi? Hein? J'avais prié, j'ai dit à Dieu que s'il veut que maintenant j'épouse un homme, qu'il fasse que le seul homme qui va venir vers moi, c'est l'homme qui va m'épouser. Est-ce que Dieu a dit que c'est un principe de sa parole là-bas? Que le premier garçon qui vient, le premier venu, même si c'est un étranger, saute seulement. C'est ça. Ok, alléluia. On va prier. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent écouter Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent qu'ils sont hors du pâturage? Quand même, qui lève la main. Si quelqu'un reconnaît que non, il suivait la voie des étrangers, il se tient même debout. N'aie pas toi honte. Ton voisin peut rire maintenant, mais rira bien qu'il rira le dernier. Alléluia. Oui. Moi, je ne voudrais pas que tu récites la prière religieusement. Souvent, la prière du péché est même devenue une religion pour beaucoup. Tous les jours, ils sont en train de prier pour se convertir et ils ne se convertissent jamais. Jamais! Ils sont toujours ancrés dans leur même péché, dans leurs mêmes égarements. Tu vas commencer, tu vas prier, tu vas dire, tu vas demander à Dieu pardon pour tout ce que Dieu t'a reproché dans ton temps. Que Seigneur, je reconnais que j'ai suivi un étranger. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, pasteur, est-ce qu'un chrétien peut suivre la musique mondaine? La musique mondaine, c'est la musique des étrangers. Elles ne suivront pas un étranger. Demande pardon à Dieu pour toutes les choses étranges que tu as suivies jusqu'à présent. Pour les étrangers, les étrangères que tu as suivies. Demande pardon à Dieu d'avoir escaladé sa barrière pour te retrouver ailleurs. D'avoir escaladé sa volonté. Les canons que Dieu avait mis autour de toi par sa parole, tu les as tous escaladés pour faire ce que tu voulais. Dis-lui maintenant, Seigneur, je me répands. J'avoue que je me suis trompé. Seigneur, j'avoue qu'au lieu de te suivre, j'ai suivi mes rêves. J'ai suivi mes ambitions. J'ai suivi ma chair. Elles ne suivront pas un étranger, même si l'étranger là s'appelle prophète de l'Éternel. Elles ne suivront pas un étranger, même si cet étranger a un vêtement de pasteur. Elles ne suivront pas un étranger. Quels sont les étrangers que tu as suivis? Dis-lui, Seigneur, je retourne au pâturage. Je ne me suis pas comporté comme une de tes brebis. Mais ce soir, je veux entendre ta voix. Tu as dit que tes brebis entendent ta voix et elles te suivent. Seigneur, j'ai suivi moi-même mes désirs. Seigneur, c'est ma chair qui m'a amené au quartier. Fais ce que j'ai fait. Je regrette ce comportement. Je regrette cette habitude. L'enfant prodigue a dit à son père, « Seigneur, traite-moi même comme un serviteur. » Mais le père l'a accueilli comme un fils. Ce soir, tu peux dire aussi à Dieu, « Seigneur, me voici, je suis de retour. Traite-moi comme ta brebis. J'accepte de redevenir ta brebis. Je suis de retour à la maison. Je suis de retour à la maison. » Dis-lui, « Seigneur, je veux entendre à nouveau ta voix. » Dis-lui, « Seigneur, s'il te plaît, je veux entendre à nouveau ta voix. » Et demande que toute autre voix se taise en toi. Dis-lui, je ne suivrai plus les étrangers. Commence à lui citer les étrangers que tu suivais. Peut-être l'étranger, c'était même ton patron au service. Et de temps en temps, il te donnait l'impression que sans son argent, tu es mort. Dis-lui, Seigneur, il n'est pas mon berger. Je n'ai qu'un berger, c'est l'Éternel. Ce garçon n'est pas mon oxygène. Je peux vivre sans lui. Ce travail n'est pas mon oxygène. Je peux vivre sans ça. Cet homme de Dieu n'est pas mon oxygène. Je peux vivre sans lui. Mais Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre en dehors de toi. Comme un poisson mourait à l'extérieur de l'eau. Seigneur, je suis absolument dépendant de ta présence. Vous pouvez vous tenir debout. Et vous allez prier en demandant à Dieu, Seigneur, ouvre mes oreilles. Rends mon oreille sensible. Il y a des moments où Satan vient crier à votre oreille pour vous perturber, vous empêcher d'écouter Dieu. C'est la voix du diable qui vous a dit, comment est-ce qu'on entend Dieu? Dieu peut-il te parler? Maintenant, demande à toute voix contraire à l'amitié de Dieu pour toi de se taire au nom de Jésus. Prends autorité et demande au doute de partir. Parce que le doute t'empêchait, que tout esprit de doute qui t'amenait à douter que Dieu peut te parler se taise. Parce que l'Éternel t'attend dans le lieu secret. L'Éternel t'attend dans la chambre des noces. Oh, pendant que tu approches, Dieu descend. Et quand il descend, il change toutes choses. Il transfère le ciel sur la terre. Il répand sa grâce. Je commande à tout doute dissimulé dans ton cœur qui t'a mené à douter de l'amour de Dieu, de se taire au nom de Jésus. Je me dresse, ton contre le ministère de Satan par le doute, par la paresse, par l'oudeur dans ta vie au nom de Jésus. Tout fardeau, toute lourdeur sur ta vie, tout sommeil pendant tes moments de prière, tombe au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, il y a des personnes qui vont sentir des charges tomber de leur dos. Prie intensément, prie. Dis Seigneur, je vais prier. Va m'empêcher d'écouter ta voix. Au nom de Jésus, je suis ta brebis. La seule option que j'ai, c'est d'écouter la voix de Dieu. Au nom de Jésus. Mes oreilles sont ouvertes. J'entends la voix de Dieu. Je l'entends distinctement. Au nom de Jésus-Christ. Dieu ouvre tes oreilles. Il libère ta grâce sur tes oreilles. Même s'il y avait une oreille physique qui n'entendait pas depuis longtemps, elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus que la communion du Saint-Esprit soit le partage de tous ici au nom de Jésus. Que les cœurs qui se sont repentis sincèrement ce soir soient guéris et restaurés, réconciliés avec toi au nom de Jésus. Seigneur, c'est ta promesse, il en est ainsi. Je déclare, Seigneur, que les moments de prière que désormais nous aurons seront des moments véritables, communion avec le Père au nom de Jésus. Je me dresse contre tout mensonge de Satan et je déclare au nom de Jésus-Christ que ceux-ci ce soir ne retourneront pas dans la paresse et le sommeil au nom de Jésus-Christ. Père, je leur arrache la paix tant qu'ils veulent s'éloigner de toi jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à genoux devant toi. Au nom de Jésus, je déclare, Père, que tous les anciens maîtres, les étrangers qu'ils avaient suivis aujourd'hui parce qu'ils ont confessé, ils se retirent de leur vie au nom de Jésus-Christ. Ils ne suivront pas la voie d'un étranger au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.